Bonjour, Raymond Richard au micro. Eh bien, nous nous retrouvons pour l'émission Terre solidaire avec Chantal pour évoquer des projets de développement. Alors, notamment, puisque il y a 5 ans, un séisme faisait des dégâts immenses en Haïti, où en est-on? Puisque nous sommes dans ce pays, en période électorale, eh bien, parlons d'abord de cette échéance électorale.
Alors, échéance électorale, effectivement, pour la fin de l'année, comment réagit la société civile depuis ce séisme? A-t-elle eu la chance de se reconstituer, de s'organiser mieux et en répondant plus aux attentes des uns des autres? C'est ça qu'on va essayer de voir à travers différents témoignages qui viennent soit des provinces du Nord ou des provinces du Centre, à travers les organisations paysannes ou à travers les associations de société civile telles que les représentants de cette société qui avait été créée au moment de l'épidémie du choléra. Est-ce que Raymond, tu as des choses à nous dire justement à propos de ce qu'on appelle les macons
qui organisent? Alors les macons, en créole, cela désigne les épis de maïs assemblés. Donc on réunit d'une part des gens de la société civile avec des responsables de la paroisse ou bien des associations politiques. Alors, les macons se réunissent. Prenons un exemple. L'ordre du jour, c'est l'organisation du festival annuel de la mangue de Gros-Morne. Rappelons que le développement de la culture de la mangue, c'est quelque chose que le CCFD a soutenu et qui perdure. Aujourd'hui, il y a eu une sélection des variétés, on a planté, et ce festival de la mangue, c'est justement pour la faire connaître et mieux la commercialiser. Donc, on s'aperçoit que les personnes échangent, quelquefois échangent durement, d'autant plus qu'en période électorale, les réunions ne peuvent pas s'abstraire de cette situation. « Ma tête est chaude, » dit l'un d'entre eux, « quand je vois que nous avons 70 candidats aux élections présidentielles et que, désormais, tout le monde se bouscule pour devenir conseiller ou magistrat, c'est-à-dire maire. » Bon, alors, vous voyez, 70 candidats, il y a un président, on voit tout de suite le problème que cela pose, et 40 000 candidats pour 6 000 postes à pourvoir aux fonctions de maire.
Donc, surtout, ce qui est étonnant, voilà, c'est que ça réclame beaucoup d'argent pour devenir candidat. Donc, on se dit, un pays aussi pauvre, où trouve-t-il autant l'argent? Parce que j'ai vu à un moment donné, c'est des sommes colossales.
Il faut 10 500 euros pour pouvoir être candidat à la présidence. Dans ce pays, on n'échappe pas à ce qui existe dans les pays de mauvaise gouvernance, à savoir les partisans d'un des leaders se réunissent et forment cette cagnotte puisqu'ils espèrent, si leur chef ou leur leader est élu, récupérer leur mise. Il y a quand même une démocratie locale à l'épreuve et puis on sait très bien que l'élection donne, disons, quelques privilèges et là, elle donne aussi éventuellement des privilèges financiers. Donc, c'est vrai que les postes politiques sont courus. Et de ce point de vue, la démocratie locale est à l'épreuve. Et de ce point de vue, on peut dire que l'Église, qui joue un rôle historique, on était responsable dans l'Église et cela situait la personne, donc on y était à la fois comme ministre de Jésus-Christ, mais aussi comme personnalité, et là aussi comme personnalité qui a de l'influence, du pouvoir et de l'argent. Mais il y a aussi une église qui, en 2014, a organisé des formations sur le thème de la société civile, la question de l'engagement. Je cite le missionnaire belge, pilier de justice et paix, qui insiste sur l'importance de ces formations. Je le cite. « Nous entendons créer des espaces de confiance favorables à la discussion pour réfléchir ensemble sur la manière de mieux structurer la société. Que vais-je faire de ma liberté? Comment je me situe en présence d'un conflit d'intérêts? Donc, il y a cette tentative de réflexion. Et puis, il y a quand même la poursuite des projets de développement que le CCFD a initiés. Donc, on a évoqué l'agriculture autour des mangues. On évoque aussi comment les paysans ont développé cette organisation par des mutuelles de solidarité, l'achat de semences. Et ils nous disent, en se mettant autour d'une même table, nous sommes parvenus à fixer nos priorités, à conduire des projets améliorant la vie quotidienne. Donc, on voit qu'il y a toujours la poursuite de ces projets de développement, mais bien sûr, il y a une hybridation des rôles. Alors, hybridation des rôles.
Oui, alors justement, parce qu'ils étaient en plusieurs élus locaux, enfin, ou représentants de la société civile locale, comme l'association Tête Collée, ou des gens qui étaient membres d'un parti politique, se rendaient compte qu'il y avait accumulation des mandats, qu'un cultivateur était aussi le directeur d'école, était journaliste, et il représentait aussi un mouvement progressiste. Alors, tout ça faisait qu'on ne savait plus trop s'il était vraiment un représentant légitime de la société civile, ou s'il faisait pas son propre petit business à son compte, en étant ayant plusieurs casquettes. Et donc, effectivement, ça a posé le souci. Et la question se pose cruellement. Mais en même temps, bon, il y en a certains, et notamment, je cite Florestan Lionel, qui est le directeur du Conseil national de financement populaire, qui est un très, très vieux conseil de financement populaire, et qui est à l'origine des Macron. Voilà. Et qui, lui, est convaincu et dit grâce au soutien du CCFD. Nous accompagnons les Macoutes depuis 7 ans pour créer un réseau d'organisation et devenir force de proposition. Pour prouver l'importance de ces espaces, il prend l'exemple de la Caisse populaire de Gros-Morne, qui apparemment, au centre du pays, donc c'est un lieu où la Caisse populaire a réellement aidé les personnes, à mutualiser leurs efforts et mutualiser leurs objectifs pour un mieux-être et un développement plus important dans cette partie du pays.
Eh bien, après ces nouvelles de Haïti, où finalement, bon an, mal an, on soutient des projets, on permet à des hommes de se lever, et puis, évidemment, il y a les problèmes de toute société qui sort de la dictature, sort de la misère, et cela demande du temps pour parvenir à une démocratie tout à fait mûre. Nous allons faire une pause, et puis nous parlerons d'un autre projet sur un autre continent, en Guinée.
De nombreuses vies dépendent de notre capacité à financer l'accompagnement de ces hommes et de ces femmes. Il suffirait que 1 500 amis du CCFD Terre Solidaire, comme vous, fassent un don pour que ces communautés sur le terrain trouvent les moyens de sortir leur population de la famine. Avec votre don de 120 euros, vous permettez l'achat de 2 lots d'outils pour le greffage des mangues pour les petits paysans d'Haïti. Avec votre don de 307 euros, vous financez la formation de 12 paysans guinéens aux techniques de production et de conservation de l'oignon. Faites de Noël un grand temps de partage. Faites votre don. Faites-le aujourd'hui.
Alors nous avons évoqué aussi la Guinée. Alors c'est intéressant puisque il se trouve que en Eure-et-Loir nous avons reçu un des artisans de la réussite de cette pomme de terre que l'on appelait la Belle de Guinée. Et justement la Belle de Guinée, au moment où nous enregistrons, nous sommes en pleine COP21 et justement en Guinée, dans cette région qui est le château d'eau de l'Afrique, notamment le massif du Fouta Djallon, eh bien on souffre de la chaleur. Et pour les pommes de terre, ça n'est pas une très bonne opération. Néanmoins, les paysans guinéens essaient de faire face en mettant en place de nouvelles variétés. Alors, regardons-y d'un peu plus près.
Effectivement, dans cette partie du monde où le dérèglement climatique aggrave les difficultés des paysans locaux, puisque maintenant la saison des pluies s'est réduite à quelques mois au lieu de couvrir une bonne partie de l'année. Donc il a fallu s'adapter. Ils sont adaptés en cherchant des variétés, c'est-à-dire des variétés qui étaient moins consommatrices d'eau, et des cultures qui allaient permettre de nourrir la population dans un climat qui devenait de plus en plus chaud et de plus en plus sec. Alors il y a donc différentes associations qui ont pris ces projets en main, et notamment des productions de riz, d'oignons et de pommes de terre à partir de nouvelles espèces. Et maintenant, par exemple, il y a des pommes de terre venues d'Europe qui ont fait leur apparition, qui sont beaucoup moins gourmandes et qui aussi mûrissent beaucoup plus rapidement. Il en est de même pour les riz, qui mûrissent en 3 mois au lieu de 5 mois. Donc c'est autant de bonnes nouvelles et de réponses ponctuelles pour faire face à ces...
aux mutations du climat.
Voilà.
Et puis, il y a aussi des échanges de savoir-faire. Je trouve ça aussi intéressant, puisque la pomme de terre, on sait que cela nous vient des pays d'Amérique latine, notamment de la cordillère des Andes. Et les paysans de Guinée sont allés, justement, voir dans ces régions si on ne peut pas trouver de meilleures.
Voilà, pour voir une agriculture plus économe et plus autonome aussi, parce que c'est vrai aussi que dans ces nouvelles espèces, s'il y a eu d'autres phénomènes comme par exemple une épidémie à forte mortalité ou autres événements conjoncturels qui font que le stock de la pomme de terre ne s'est pas complètement écoulé, quand arrivent les suivantes, puisque ce sont des variétés qui ont des cycles très courts, donc ils se répètent assez souvent, ça fait vite baisser le cours de la denrée. Donc, pour éviter cela, ils ont essayé différentes formules pour conserver, mais alors ils se sont rendus compte que ce n'était pas évident. La conservation par le froid, c'est très onéreux, c'est très onéreux en fuel. Par contre, on revient à la bonne vieille méthode de la diversification. Et c'est en diversifiant les cultures, en créant des vergers, et c'est là que l'on remet en route une manière de pouvoir gérer les différentes saisons et aléas, pas seulement climatiques, mais sociaux ou économiques, de pouvoir y pallier en ne comptant pas sur une ou seule de revenus, comme la pomme de terre ou le riz, mais plein d'autres avec des fruits et des cultures maraîchères.
Oui, parce que rappelons que la Guinée est un pays qui a été touché par l'épidémie liée au virus Ebola, et que de ce fait, les paysans ne pouvaient vendre aux pays voisins leur production. Ce qui a amené toute une réflexion, ce qui les a amenés donc au Pérou pour voir d'autres variétés de pommes de terre, ce qui les a amenés aussi à faire le voyage d'études en Vendée, auprès des paysans, pour valoriser aussi des techniques agricoles qui mettent en place une certaine agroécologie, une rotation de culture plus rapide. Donc, on voit que les paysans guinéens s'organisent, s'informent, sont en relation avec les autres, et c'est ce que le CCFD soutient lorsque il propose aux partenaires de venir ici, mais aussi lorsqu'ils favorisent les échanges entre les pays du Sud. Donc, aller vers une agriculture plus économe et plus autonome, selon les principes de l'agroécologie, eh bien, c'est la bonne nouvelle pour les paysans de Guinée. Et puisque nous sommes dans la période de Noël, eh bien, c'est aussi la bonne nouvelle qui, tout court, permet à ces hommes de mieux vivre, mieux manger, et c'est peut-être cela le message de Noël. Bonne semaine à tous. Au revoir.